Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en ce vendredi et après une semaine d'échanges variés et chaque jour aussi enrichissant. Nous étions hier en ligne avec Caroline qui nous est fidèle depuis Boston. On en profite justement pour la saluer ainsi que tous ceux qui vivent à l'étranger et qui trouvent dans On est fait pour s'entendre une façon de conserver le lien avec la France. Je sais que vous nous écoutez aux Pays-Bas, en Allemagne, en Chine, au Sri Lanka, en Angleterre et au Maroc. Voilà, on pense à vous. Nous vous proposons aujourd'hui de parler ensemble de l'impact de la retraite sur le couple. C'est toute une vie à réorganiser, parfois non sans heurts. Alors la retraite met-elle le couple en danger? S'y prépare-t-on suffisamment? Quels sont les enjeux quand l'un des deux travaille, quand les conjoints se retrouvent 24 heures sur 24 ensemble? Notre partenaire, le magazine Femmes Majuscules, consacre un article à ce sujet intitulé « La retraite, un long fleuve tranquille ?» point d'interrogation, dans son numéro de janvier-février, actuellement en kiosque. Et nos invités aujourd'hui, dans cette grande journée sur la retraite sur RTL, sont la psychologue et psychothérapeute Sophie Mufang. Sophie, soyez la bienvenue, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur, Sophie Mufang, de l'ouvrage La retraite, pas si simple, comment passer le cap chez Ellipse. Un ouvrage que l'on conseille à tous ceux qui vont passer justement par ce cap important. À vos côtés, vous le connaissez, désormais si célèbre, hein, un indispensable de cette émission quand il s'agit de parler des seniors et de la retraite. C'est Serge Guérin, qui est sociologue. Serge, ça va ?
Mes hommages, chère famille. Tout va bien.
Aussi, vous avez écrit le livre La nouvelle société des seniors chez Michalon, qui est toujours sur notre bureau, parce qu'en fait, on vous appelle régulièrement. Vous êtes là assez souvent pour en parler, donc l'ouvrage ne quitte plus mon bureau.
Ah, très bonne nouvelle. Bon. Ça prouve simplement que les questions de vieillissement, les questions de seniors, les questions de retraite sont des questions de société qui concernent tout nos auditeurs, et je sais qu'ils sont extrêmement nombreux.
Exactement, et c'est la raison pour laquelle on en parle régulièrement. La retraite, c'est une transition forcément très importante dans la vie, que l'on sous-estime, peut-être pendant toute notre vie active, Sophie Mufang.
J'ai l'impression que quand on est dans la vie active, on l'idéalise en se disant, ça va être formidable, ça va être formidable. Et puis, plus l'échéance arrive, et plus je vois des personnes s'inquiéter en se disant, mon Dieu, mais est-ce que ça va être vraiment si formidable? Et plus on s'est dit, ça va être formidable, plus on attend que ce soit formidable, et donc on idéalise un peu. Et le risque, c'est de se casser la figure parce que la réalité n'est pas toujours aussi belle.
Alors, elle ressemble à quoi cette réalité de la retraite, Serge Guérin? On a bien compris dans plusieurs émissions, et on en reparlera aussi aujourd'hui, qu'il faut prévoir, il faut préparer cet instant de vie. Peut-être qu'il y a une prise de conscience maintenant aussi. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se casse le nez au moment de la retraite?
Alors, c'est vrai que c'est une des ruptures dans la vie parmi les plus importantes. C'est peut-être, s'il y en a trois, elle fait partie des trois, par exemple. C'est un moment incroyable. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai été contraint par des horaires. Quasiment depuis que je suis né. Il fallait se dépêcher d'aller à la garderie ou aller à la crèche. Il faut se dépêcher d'aller à la maternelle. Enfin, il faut se dépêcher d'aller au bureau.
Il faut se dépêcher tout le temps. Quoi.
Ouais, tout le temps. Et là, du jour au lendemain, sans aucune préparation, du vendredi soir au lundi matin, bing, il n'y a plus d'horaire. Donc d'un seul coup, j'ai devant moi 24 heures. Comment je, entre guillemets, remplis ces 24 heures? Donc il y a une sorte de vide, il y a un moment un peu de sidération. Mais qu'est-ce que je vais faire? Deuxième élément qui est extrêmement important, c'est le sentiment d'utilité, le statut social, la fonction sociale. Comment je me définis? Je me définis très largement par mon activité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On est dans un dîner de famille et vous faites quoi dans la vie? Ça nous définit très fortement.
On n'existe plus.
Et là, d'un seul coup, alors pour les hommes encore plus, parce que souvent, vous savez que les hommes sont un peu monotâches.
Ils sont quoi, les hommes?
Les hommes sont plutôt monotâches et les femmes sont plutôt multitâches. Quoi. Il y a quelque chose, une capacité à faire plusieurs choses. Et donc, pardon. Et là, d'un seul coup, j'ai plus ma carte de visite, j'ai plus mon métier, j'ai plus mon statut.
Je n'existe plus socialement.
Et donc, j'ai peur de ne plus exister socialement. J'ai peur aussi d'être un peu en retrait. D'ailleurs, le mot retraite et le mot retrait, vous voyez bien, hein, battre en retraite chez le militaire, c'est pas très positif. Il y a un côté comme ça. Il y a une retraite sociale, en quelque sorte. Je suis mis sur le côté.
Alors, c'est intéressant parce que là, vous nous parlez de la retraite en règle générale, mais j'ai le sentiment, Sophie Mufang, que dans le couple, dans l'amour, ce sentiment de vide, on doit le ressentir aussi. C'est-à-dire que tout à coup, on a énormément de temps à passer avec une personne dont on a été éloigné de par le travail pendant toute la vie active. Donc, le sentiment de vide dont parle Serge Guérin, on peut le ressentir en amour. Et le fait de ne plus avoir le sentiment d'exister aussi auprès de l'autre, ça peut faire partie des écueils de la retraite, non ?
J'ai l'impression que le plus gros écueil au niveau de la retraite, c'est plutôt d'avoir à se supporter l'un l'autre 24 heures sur 24.
Bon, ça, je n'osais pas encore vous la poser, mais...
C'est ça dont tout le monde...
A peur.
Oui. Beaucoup plus, je dirais, par rapport à l'autre. Hein. Pour le vide, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a pu dire Serge, mais par rapport à la relation à deux, j'ai l'impression que le plus difficile, c'est de trouver chacun sa place et donc de trouver la juste distance.
Est-ce que l'on constate qu'il y a beaucoup de séparations au moment de la retraite? De plus en plus.
Et majoritairement à l'initiative des dames. Parce que elles se disent...
Elles sont multitâches, comme dit Serge Guérin.
Oui, mais en même temps, elles sont exigeantes. Et en même temps, elles se disent, oui, mais non, si j'ai envie vraiment de faire quelque chose de ma vie, j'ai envie d'y aller vraiment à fond. Et donc, j'ai envie de le faire à ma façon. Et pas forcément à la façon dont celui qui a été mon chéri d'amour voudrait m'accompagner.
Et qui n'est plus donc le chéri d'amour idéalisé pendant toute
la vie. C'est-à-dire qu'on est un peu retombé dans la réalité. Et, bon. Mais ça dépend si on parle des couples qui sont les mêmes depuis le début ou bien si on est dans une reconfiguration. Et là, c'est complètement différent parce que là, j'en vois
qui
ont plein de choses à vivre.
Exactement, c'est la raison pour laquelle on va faire cette émission et avec vous, bien évidemment, et avec nos auditeurs. On vous attend au 3210 si vous passez ce cap actuellement ou si vous êtes passé par là, si vous vous interrogez. N'hésitez pas, venez nous raconter l'amour au moment où on a le temps, justement, d'en profiter. Et pourtant, parfois, ça ne fonctionne pas. 3210, notre page Facebook ou encore RTL.fr. On vous attend, à tout de suite.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Allez, parlons d'amour sur l'antenne d'RTL, d'amour à l'heure de la retraite. Et là, tout à coup, on se pose quand même certaines questions et peut-être qu'il faut le préparer, ce moment-là. Nos invités aujourd'hui sont la psychologue et psychothérapeute Sophie Mufang et le sociologue Serge Guérin. Et vous, bien sûr, si vous souhaitez intervenir ou nous poser des questions ou nous éclairer de votre expérience, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur le 3210, le standard est ouvert. Une retraite subie d'un point de vue amoureux, ou une retraite subie en règle générale, ça complique quand même forcément les choses d'un point de vue amoureux.
C'est pas bon pour le moral en général, et donc forcément ça vient affecter le côté amoureux aussi.
Voilà, il faut se réjouir d'être à la retraite, Serge Guérin ?
Alors, est-ce qu'il faut se réjouir ? Tout dépend de comment on l'a préparé. Le plus dangereux, c'est la personne qui dit « vivement la retraite ». Je me dis « mais tu vas faire quoi à la retraite ?»« Oh, t'inquiète, j'aurai de quoi m'occuper. » Voilà. Alors ça, c'est très très mauvais. C'est comme tout, c'est l'enjeu de la prévention. Je prépare, ça va être un moment totalement différent. Dans le couple, dans la vie personnelle, dans la vie sociale, dans la vie économique. Je peux me retrouver avec des revenus beaucoup plus faibles.
C'est vrai.
Donc tout ça s'organise. Puis de se dire, est-ce que de quoi j'aurai envie après ? Je peux avoir des projets. Par exemple, si on est en couple, est-ce que j'ai un projet commun ? Est-ce qu'on a réfléchi à notre projet post-travail ? C'est une autre forme de travail. Tout dépend aussi... savoir si dans le couple, les deux vont partir à peu près au même moment à la retraite ou s'il y en a un qui va partir bien avant l'autre. C'est pas pareil de dire mon compagnon, ma compagne fait telle chose, même avec un écart d'âge, et mon compagnon, ma compagne est à la retraite. C'est pas tout à fait la même chose, ni le même ressenti. Est-ce que le soir quand je rentre, l'autre personne a une vie complètement différente puisque toute la journée elle était libre. Bon, et ainsi de suite. Donc tout ça demande beaucoup de préparation, mais une fois que ça s'est préparé, dans plein de cas, évidemment et heureusement, ça se passe bien.
Mais est-ce que la retraite est révélateur, finalement, Sophie Mufang, des problèmes de couple qui déjà existaient ?
Oui.
C'est là que ça pète, en fait, et que tout ressort.
Oui, parce que tout d'un coup, les choses apparaissent au grand jour. Tant qu'on est au travail, on a un alibi, on peut vivre sa vie, et puis voilà, ça, quand on se retrouve, ça dure pas très longtemps. Je voulais rebondir sur ce que disait Serge Guérin à propos du départ décalé, concernant la gestion de l'espace. Parce que quand il y en a un qui rentre d'abord à la maison, il occupe tout l'espace. Et quand l'autre arrive... Ouh là là, il a besoin de refaire sa place et ça, c'est pas facile. Et c'est une des questions sur lesquelles ça risque d'achopper.
Quelles sont les questions que l'on doit se poser justement quand on se retrouve dans ce scénario où l'un est actif et l'autre est à la retraite ?
Je dirais ça dépend de chacun, mais si déjà s'occuper de soi et de voir soi ce dont on a envie, et puis ensuite, comme le disait Serge, comment ça s'ajuste avec la question de l'autre. Mais déjà prendre du temps pour soi. Et quand on parle de retraite, ça pourrait être aussi se retirer en soi et commencer à réfléchir. Et moi, je veux quoi ? J'en suis où dans ma vie ? Et j'ai envie de quoi pour la suite ? Et puis après, comment j'ajuste avec l'autre ?
Et le conjoint du jeune retraité a forcément un rôle à jouer dans la façon dont il va vivre cette position de retraite, non ?
Pas forcément. Non, je suis pas, enfin, un peu, mais pas complètement. Sinon, ça serait faire tout dépendre de l'autre. En fait, ça dépend aussi de nous.
Bien sûr. Mais est-ce qu'une différence d'âge dans le cadre d'un couple, comme le disait Serge Guérin, où il peut y avoir une différence de vie, hein, avec une mise à la retraite. C'est marrant, mise à la retraite d'ailleurs. Il va falloir qu'on m'explique ce lapsus, mais une mise à la retraite peut-être anticipée par rapport à l'autre et tout, et qu'il y a une vraie différence d'âge. Est-ce que tout à coup, ça peut provoquer certains problèmes dans le couple à ce moment-là?
Ça peut les provoquer, mais inversement, ça peut aussi complètement les atténuer parce que le plus vieux des deux a repris un coup de jeune avec, reprend un coup de jeune avec cette autre vie.
Oui.
Et donc, pas forcément. Non, je partirai pas dans des généralisations.
D'accord, très bien. Ne partons pas dans des généralisations, Sophie Meufang, il n'y a pas de problème. La différence de rythme, elle devient forcément problématique au quotidien?
C'est-à-dire que, oui, il y a deux rythmes très différents. Donc, est-ce qu'ils restent très différents ou est-ce qu'il y a des formes d'adaptation? Est-ce qu'il y a des moments où je me donne le droit d'avoir ma vie? Y compris d'ailleurs, parce que je peux être à la retraite, c'est pas pour ça que je ne suis pas actif. Je suis actif différemment. Par exemple, je peux m'engager dans le bénévolat. Je peux m'engager, on est bientôt aux élections municipales, je peux m'engager dans un conseil municipal. Il y a des choses comme ça. C'est pas parce que je ne travaille plus au sens officiel du terme que pour autant je n'ai pas une activité. Et même, je peux même réfléchir à une nouvelle activité, peut-être quelque chose qui a plus de sens pour moi. Le fait d'avoir plus de sens pour moi, d'abord peut-être que je serai plus heureux et que donc, dans le couple, ça fera aussi du bien. Et puis peut-être aussi, je peux réfléchir en me disant, mais est-ce qu'une fois que l'autre membre du couple partira aussi, est-ce qu'il n'y a pas un projet commun aussi à construire? Par exemple, un des risques énormes, c'est de se dire je vais déménager, on va déménager. Parfois, les deux n'ont pas nécessairement envie de déménager de la même façon, les gens n'ont pas les mêmes liens. Et donc, ça peut être aussi l'un qui va un peu dominer l'autre, et l'autre, du coup, qui va se retrouver extrêmement perdant. C'est pour ça que c'est à un moment donné de négociation, finalement, peut-être plus fort. Il y a eu beaucoup, en effet, comme dit Sophie Meufang, il y a eu beaucoup de non-dits. Bon, allez, ok, on gère ça, puis de toute façon c'est pas très grave, j'ai que deux heures à passer à la maison. Mais là, d'un seul coup, j'ai tout le temps à passer à la maison. Du coup, ça donne plus d'importance, et donc le projet prend plus d'importance. Parce que finalement, il sera plus caché par l'emploi, il n'est plus non plus caché par les enfants.
Donc forcément,
les deux liens, disons, les plus forts ne sont plus là. Après, il peut y en avoir d'autres qui arrivent. Par exemple, mes propres parents qui commencent à avoir des difficultés. Et du coup, dans une série d'enquêtes que j'ai fait comme ça, une dame m'avait dit, mais je pensais en arrivant à la retraite pouvoir ne penser qu'à moi, pour aller faire des voyages et tout. Deux mois après, ma belle-mère a un souci de santé, elle est venue habiter chez nous. Du coup, évidemment, ça transforme tout.
Ça vient contraindre tous les projets.
Ça peut
venir
contraindre beaucoup de choses. Et donc, c'est quelle place j'ai, en gardant quand même ma place. Est-ce que j'ai des projets? Est-ce que j'ai des envies? Et comment, là-dedans, il y a l'autre, et puis peut-être des autres encore.
On va parler avec Jean, si vous le voulez bien. Jean, bonjour.
Bonjour.
Jean qui nous appelle de
bonjour
Saint-Jean.
À tous.
Merci de nous appeler, Jean. Vous m'autorisez à donner votre âge?
Oui, bien sûr.
Vous avez 70 ans. Bravo.
Oui.
Ça fait 12 ans maintenant que vous êtes à la retraite.
Oui.
Comment avez-vous vécu ce passage de vie si important?
Alors, contrairement à ce que disait M. Serge Guin, le phénomène de crainte ne s'est absolument pas produit. On s'est plutôt rapproché, à tel point qu'on était considérés comme des inséparables, toujours collés l'un à l'autre. Est-ce que c'est le fait d'avoir été séparés pendant la vie professionnelle? Certainement.
Oui.
Ça s'est fait tout seul, on s'est même pas aperçu. Si nos amis nous avaient pas dit, mais on voit jamais l'un sans l'autre, vous êtes toujours collés l'un à l'autre. et nous avons choisi, par exemple, de prendre deux après-midi séparés, dans des activités différentes.
Pour vous décoller.
Pour se décoller. Mais comme d'autre part, on est très engagé dans d'autres associations, à caractère humanitaire, en tant que bénévole, on s'est retrouvés, ayant les mêmes goûts, bien sûr, ça fait quand même 48 ans que nous sommes mariés, et ayant les mêmes goûts, on s'est retrouvés avec les mêmes affinités pour donner aux autres. Et on a décidé que notre fin de vie, eh bien, elle sera comme ça, de donner aux autres. Et j'engage tous les retraités de le faire.
D'accord. Alors, comment s'appelle justement cette femme qui a la chance d'être aimée par vous?
Elle s'appelle Olga.
Olga, d'accord.
Et je suis sûr qu'elle nous écoute et qu'elle est d'accord avec moi.
Mais là, on est dans un après-midi où vous êtes ensemble ou on est dans un après-midi où vous êtes séparés?
Alors moi, non, je suis dans un après-midi où j'étais chercher des matériaux pour la maison, et un peu... un peu seul, si vous voulez. Mais bon, c'est lourd à manipuler.
D'accord, ok.
J'ai parlé avec
moi. Oui, j'imagine.
Mais on fait tout ensemble, absolument tout. Alors, on a toujours, toute notre vie, fait tout ensemble.
Jean, on a le sentiment qu'avec Olga, vous profitez justement de tout ce temps qui vous est permis, hein, grâce à la retraite. Deux choses. Vous avez pris votre retraite ensemble au même moment ?
Pas du tout, parce que mon épouse a élevé les enfants.
Mmh.
A très peu travaillé et a été une épouse à la maison. Et comme nous avons eu, plutôt sur la fin de notre carrière, une grande maison à rénover, eh bien, pendant que je bossais encore, elle a continué à rénover cette maison.
D'accord.
Et on se retrouvait tous les soirs ou tous les fins de semaine.
En fait, ce qu'on entend, Jean, dans tout ce que vous dites, c'est qu'avec Olga, vous n'avez cessé toute votre vie durant d'avoir des points communs et d'avoir des projets communs.
Voilà.
C'est peut-être pour ça aussi.
Et même encore maintenant. Et même encore maintenant, au moment de la retraite.
Est-ce que vous avez eu le sentiment de redécouvrir un petit peu Olga au moment de la retraite ? Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais quand on a été séparés.
Sur certains points, oui.
Lesquels ?
Eh bien, par exemple, je savais qu'elle était artiste, mais pas au point, par exemple, de faire des tableaux. Elle s'est remise à la peinture et elle m'a beaucoup surprise. Elle s'est montrée également plus entreprenante au niveau des voyages que je ne l'aurais supposé.
Donc c'est super parce qu'en plus ce que j'entends c'est qu'on peut toujours surprendre l'autre, hein. C'est toujours possible même après autant d'années passées ensemble, 48 ans, c'est génial de se dire que ça renouvelle et forcément ça cimente, ça entretient l'amour.
Oui.
Vous avez bien suggéré l'histoire avec Olga quand même, Jean. Hein, et je vais être obligée de vous abandonner parce qu'il faut que je retourne à ma conversation avec Serge Guérin et Sophie Mufang. Mais je voudrais vous remercier en tout cas de nous avoir parlé d'amour à votre façon. Et puis, vous saluerez Olga quand vous rentrerez ce soir à la maison, d'accord ?
Je n'y manquerai pas.
Bon, je suis ravie d'avoir passé un petit peu de temps avec vous dans cet après-midi libre.
Merci.
Allez, je vous embrasse, Jean. Salut. Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez RTL. On est fait pour s'entendre.
Après 30 ans de travail ensemble, 24 heures sur 24, nous sommes depuis 9 ans à la retraite et c'est du pur bonheur, nous écrit Janie Jaune. Et savoir garder des moments pour soi, se retrouver après, mon homme est un jeune retraité, début janvier 2014, nous écrit France. Il me reste 14 ans à travailler, si je pouvais je resterais bien à la maison, on partage plein de choses, le sport, les randonnées, le cinéma, donc tout va bien. Sophie Mufang, tout se passe formidablement bien, côté amour à la retraite. Qu'est-ce que vous nous racontez, là ?
Il y a ceux qui le disent et puis il y a ceux qui disent rien. Et quelquefois, les gens ne disent pas parce que c'est vraiment douloureux et que ça les confronte vraiment à des difficultés et puis au regard des autres aussi.
Bien sûr, mais bon...
C'est compliqué dans ce cas-là.
On parlera justement de tout ça dans un instant, la façon dont on doit gérer les choses. Mais je voudrais qu'on revienne sur le témoignage de Jean il y a un instant. C'est vrai que Jean qui nous explique que pour lui, sa mission de la retraite, c'est parvenir à se décoller d'Olga.
Mais il a aussi parlé de redécouverte.
Alors justement, est-ce que ça n'est pas le moment de se redécouvrir, de découvrir l'autre aussi ? Parce que s'il y a une place laissée à la surprise dans ces instants-là.
Et en dehors de tout ce dont on a eu l'habitude, en dehors des cadres dont parlait Serge Guérin tout à l'heure, c'est-à-dire en dehors des repères habituels. Et là, tout d'un coup, tous les repères ont éclaté et on peut vraiment se redécouvrir.
Serge, ils sont très actifs, hein, Jean et Olga. Il y a de l'engagement humanitaire. Alors ça, on dit souvent rien de tel que ça, parce qu'effectivement, ça permet à un moment donné d'avoir un sentiment d'utilité, mais d'être en plus en relation permanente avec l'autre. Donc c'est quand même un essentiel et ça maintient jeune, je dirais. Mais c'est aussi, ce sont des gens actifs, ils passent leur temps à faire des choses ensemble ou séparés. On tient tout à coup un agenda quand on est à la retraite ?
Oui, il y a un côté comme ça. Souvent, ma vie professionnelle a été assez cadrée. Je partais embaucher le matin à 8h, je débauche à 18h, une heure pour rentrer, puis voilà. Et tous les jours se refont. Et un seul coup, à la retraite, je dois justement, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, c'est au moment de la retraite que je peux avoir une vie sociale énorme. Beaucoup plus riche, parce que c'est moi qui l'organise. C'est moi qui ai 24 heures sur 24 pour le faire. Alors, pour certaines personnes, c'est un vertige. Pour d'autres, c'est impossible. Puis pour les troisièmes, c'est un bonheur total. N'oublions pas que l'engagement il est d'abord sur une notion de plaisir. Je m'engage d'abord parce que ça me fait du bien de m'engager. Et c'est parce que ça me fait du bien que ça fait du bien d'autres. Mais il y a aussi un aspect un petit peu, il faut aussi un peu remplir, quoi. Il faut aussi un petit peu remplir parfois les journées. Voilà. Parce que j'ai peur par rapport à ça. Et parfois, c'est aussi, on peut aussi y voir une sorte de, un peu de fuite en avant. Chacun va avoir plein d'activités, voire même des activités qui permettent aussi de se séparer à nouveau ou de maintenir des séparations. Ça peut être aussi des stratégies pas nécessairement énoncées, mais des stratégies pour être pas justement tout le temps avec l'autre, parce que pour se garder ces moments de respiration. Dans une série d'enquêtes que j'avais fait pour anecdote, quand je voyais les personnes en couple, les deux me disaient combien c'était important l'engagement. Puis après, je les voyais toujours séparément après. Et systématiquement, je suis un garçon, donc le monsieur me disait, bon, on peut se parler entre hommes et tout ça, comprenez bien que de temps en temps, j'ai besoin de respirer. Voilà. Et donc, dans les deux après-midi que j'ai pris, c'est pas du tout le cas de Jean, bien sûr, mais dans les deux après-midi que j'ai pris officiellement pour aller dans le monde associatif, il y en a une, je vais pas dans le monde associatif.
Et c'est-à-dire
après chacun racontait ce qu'il pouvait faire d'autre. Il y a plein d'autres activités possibles, d'accord, de liens sociaux, de rencontres. Bon. Et puis la dame, elle aussi me disait, ça fait à elle souvent beaucoup plus lucide. Disait, ça nous fait du bien aussi d'avoir des moments différents. Et elle allait dans les deux associations, mais en disant bien que c'était aussi une façon, au-delà de l'association, c'était aussi une façon de s'éloigner un petit peu de son compagnon.
Sophie,
mais ces petites cachotteries, c'est aussi avoir son jardin secret, et ça, c'est important.
Bien sûr,
évidemment. Je pensais aussi à toutes ces personnes qui ont le mythe de « je vais m'engager, je vais faire des choses en humanitaire » et qui tout d'un coup se rendent compte que c'est extrêmement contraignant et qu'ils n'en ont pas envie. Donc finalement, c'est important aussi d'aller tester, en particulier dans la première année, je dis souvent « allez voir, juste pour voir, sans vous engager de façon trop durable, pour voir si vraiment c'est là-dedans que vous avez envie de vous impliquer. » Parce que le bénévolat, ça demande réellement un engagement.
Je voudrais qu'on revienne en dehors du bénévolat, je voudrais qu'on revienne sur le couple, puisque c'est aussi le sujet du jour. C'était intéressant ce que vous étiez en train de dire, Sophie Mufang, sur cette idée de jardin secret. Est-ce qu'on n'a pas aussi tendance à imaginer que la retraite est l'heure des grandes vérités, du partage de tout, quand effectivement Serge nous explique que quand il fait ses études, il se rend compte qu'ils ont besoin de se séparer, mais ils ne se le disent pas. Est-ce que c'est pas le moment de se dire la vérité aussi?
Se dire la vérité, ça veut dire quoi? C'est déjà être... se dire la vérité à soi.
Oui,
et
c'est ça.
Et on a besoin de petits moments, mais de territoire. Ça peut être, ce que je dis toujours, c'est chacun son territoire. Et du coup, on pourra avoir un terrain en commun. Mais le territoire, ça passe aussi par des choses très étranges. J'ai vu comme ça un jour un couple qui fonctionnait avec une seule paire de lunettes. Ben, ils passaient leur temps à s'engueuler parce qu'évidemment, ils avaient envie de regarder les choses en même temps avec la même paire de lunettes. Donc, ça va pas. Le territoire, c'est aussi des petites choses comme ça. C'est mes petits ciseaux de couture ou ma truelle pour bricoler ou... Voilà, c'est avoir chacun des activités à soi et des objets, des temps à soi.
Voilà, ne pas idéaliser.
On le voit bien d'ailleurs dans l'espace, ça dépend de la chance qu'on a, les moyens que l'on a, mais l'endroit où on vit, si possible, chacun, à un moment ou à un autre, construit un territoire à lui. C'est-à-dire qu'il y a des endroits communs, puis il y a des endroits où tu
viens
pas.
Il y a l'établi au fond du jardin.
Voilà, exactement,
un petit peu caricature. Pas toujours au fond du jardin.
Ah, parfois,
là,
dans la maison.
Il y a plus chauffage.
Mais ça peut être aussi très souvent, vous savez, la personne, il est à la retraite, et le lendemain du jour à la retraite, il va dans la cuisine pour aider sa femme. Sa femme lui dit, attends, t'es gentil, ça fait 30 ans que t'es pas venu dans la cuisine, laisse-moi tranquille, cherche pas à devenir d'un seul coup. Parce que, là, je rentre pas dans les considérations égalité femmes-hommes, mais simplement, le fait est que c'était mon endroit à moi, et viens pas m'embêter dans mon endroit à moi. Il y a un besoin de se trouver des espaces, des territoires, en effet, qui soient aussi des territoires physiques. Alors, bien sûr, plus j'ai des moyens, plus ils sont larges, mais quand même des petits endroits où tu viens pas chercher dans le secrétaire, quoi.
Sophie?
Mais ça n'a pas besoin d'être des grands endroits, c'est en tout cas des modalités. Et dans mon territoire, c'est moi qui gère, à ma façon. Mon ordre, c'est toujours du désordre pour le conjoint. Donc, c'est mon petit bordel à moi, mais c'est mon affaire à moi, et je m'en charge.
Mais ça vaut aussi avant la retraite, non?
Oui. Largement.
Oui, bien évidemment.
Il y a du vécu.
Bien évidemment. Mais avant la retraite...
On se retrouve dans un instant, si vous voulez bien, avec vous. Je vais me faire l'écho des derniers messages que nous avons reçus. Et puis, nous appellerons Françoise, si elle n'est pas déjà sur la route. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, la vie flamande sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Serge Guérin est bavard, hors antenne et à l'antenne avec nous. Il est sociologue, il est votre invité aujourd'hui avec la psychologue Sophie Mufang pour parler de l'amour à l'heure de la retraite. Je vous parle de leurs ouvrages. La retraite, pas si simple, comment passer le cap. C'est votre ouvrage, Sophie, aux éditions Ellipse. Et la nouvelle société des seniors, Serge Guérin, chez Michelon. Et je vous rappelle également que notre conversation, vous pouvez la poursuivre en lisant le magazine Femmes Majuscules, partenaire de cette émission. Nous allons parler avec Françoise, si vous le voulez bien, qui a 70 ans et qui nous appelle de La Rochelle. Françoise, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour monsieur.
Bonjour madame, pardonnez-moi, je vous appelle par votre prénom, j'aimerais bien vous m'appeler. Oui. Appelez-moi Flavie, ce sera plus sympa.
Oui, Flavie, bien sûr, Flavie.
Merci.
Oui, Comment... vous êtes adorable.
Écoutez, vous aussi, je suis très heureuse de pouvoir vous parler. Comment va l'homme que vous aimez, Françoise? Comment s'appelle-t-il déjà?
Il s'appelle David.
Et quel âge il a, David?
Ah, 43 ans.
Et vous?
Je viens d'avoir 70.
D'accord, et ça fait combien de temps que vous vous aimez?
14 ans.
Oh, c'est beau. Comment vous vous êtes rencontrés?
Ah bah écoutez, il est venu me mettre un arbre sur ma terrasse.
C'est beau.
Voilà. Et il n'est pas reparti.
Voilà, il a planté un arbre et puis tout à coup l'amour est parti comme ça. Eh ben écoutez, c'est formidable. Et c'est une belle histoire. Alors c'est une histoire qui aussi évidemment existe dans cette période de retraite qui est la vôtre, Françoise. Comment est-ce que vous gérez justement tout ça?
Très très bien. Écoutez, moi c'est le bonheur absolu de l'avoir rencontré. C'est une chose que je n'aurais jamais imaginée avant, ouais. Et surtout pas passer ma retraite avec un jeune homme. Ouais. Mais cela dit, c'est vraiment, oui, c'est le grand bonheur. Alors bon, toute ma vie j'ai aimé faire ce que j'avais envie, surtout donc en égoïste. Ouais. Et ça continue finalement. Mais nous nous entendons très très bien. Nous faisons tout ensemble, alors évidemment pas quand tu travailles, mais sinon des virées en camping-car, en camping sauvage, des voyages au Maroc. Et puis je suis très, très active. Je me demande même comment j'ai eu le temps de travailler, comment j'ai pu faire. Parce que je suis très très occupée. Alors il y a des soirées philosophiques auxquelles il m'accompagne dans les librairies. Je suis visiteuse de prison. Pour essayer
c'est
de comprendre l'incompréhensible. J'ai fait de la politique, je n'en fais plus. Je crée des sacs en cuir. Je brode du shopping avec une amie et lui quand il est libre. Enfin, ça se passe vraiment admirablement.
Écoutez, quand on vous écoute, on l'entend. Il y en a un qui vient de tomber amoureux de vous, il s'appelle Serge Guérin.
J'ai un concurrent de 43 ans, je
oui,
trouve.
Oui, alors attendez, je ne sais pas comment est Monsieur Guérin, sûrement charmant, mais mon compagnon est très, très patient avec moi.
Je pense qu'il faut l'être, Françoise.
Il le faut, vraiment. Alors donc, parapente, l'été, en montagne.
C'est vous qui faites du parapente?
Ah bah oui,
et
il ne veut pas.
Ah oui, il ne veut pas? Il vous
donc,
attend?
Il a peur. Oh, il a peur et il a peur pour moi quand j'arrive, quand je redescends. Il est complètement pétrifié, il tremble de tous ses membres.
Oh, c'est beau ça.
Ah oui, oui, c'est beau parce que ça fait 14 ans que ça dure. Parce qu'évidemment, les trois premières années, on se dit, oh, c'est pas possible, mais c'est magnifique. Ouais. Mais quand ça dure comme ça, mais quelquefois, c'est fatigant, tant d'adoration et tant d'admiration.
C'est vrai, pourquoi ?
Écoutez, quelqu'un qui vous aime, qui vous dit qu'il vous aime sans arrêt, surtout ne change pas ma chérie, reste comme tu es, ça me fatigue, mais tant pis. Enfin bon.
C'est vermeilleux,
c'est
mignon, moi,
comme
je trouve.
Tout ça, des petits cadeaux, des attentions, c'est tout le temps, tout le temps.
Alors, Françoise, c'est une déclaration d'amour que vous faites à David sur l'antenne d'RTL. Je voudrais juste comprendre, David, là, il est dans la vie active, il travaille.
Ah là, il travaille, mais il va rentrer très vite parce qu'il n'arrive jamais en retard, enfin, autant qu'il puisse quand même. Mais vraiment, dès qu'il sort de son travail, il arrive en courant à la maison.
Et vous imaginez, vous envisagez le moment où lui cessera de travailler
Bah écoutez, là, je serais vraiment trop vieille.
Oui, d'accord.
Parce qu'il n'a que 43 ans.
Mais c'est vrai.
J'ai voulu être honnête parce que je pense quand même peut-être plus à lui quand même qu'à moi.
Oui.
En ce sens que je lui ai proposé quelquefois, je lui ai dit, écoute, bon, le bonheur, c'est merveilleux, mais il faut que toi, tu sois complètement heureux et épanoui. Et il serait peut-être temps de changer de vie, mais ne veut pas. Alors moi, je suis ravie, évidemment.
Bah
mais
oui, Françoise.
Là, je ne peux pas être égoïste. Je n'ai pas les moyens de l'être.
Mais non, mais moi je pense qu'il faut vivre aussi l'amour quand il est là et qu'il est si beau qu'il a le visage de l'homme que vous aimez et qui visiblement en plus vous aime formidablement bien. Je trouve qu'il faut pas passer à côté de ça. Mais j'entends ce que vous dites et je trouve que c'est une belle preuve d'amour de parler comme ça de lui. Françoise, les années qui viennent, ça va être donc du camping-car, du parapente, profiter de la vie,
oui.
Profiter de l'amour.
Oui.
Juste, on sent que vous avez toujours eu une vie riche et active puisque
oui.
Vous êtes la première à dire que vous ne savez même pas comment vous avez fait pour travailler, c'est-à-dire que vous avez la culture du plaisir.
Oui.
Est-ce que vous pensez que c'est essentiel dans sa gestion, justement, de sa retraite?
Bah, écoutez, quand on a la chance d'avoir... Bon, j'ai eu des maladies comme tout le monde, j'ai eu des problèmes comme tout le monde, mais cela dit, j'arrive toujours à rebondir et à avoir que le bon côté des choses. Donc, les années qui vont venir, évidemment que quelquefois, ça angoisse un petit peu, parce que c'est pas du tout la peur de mourir un jour, c'est la peur de ne plus pouvoir faire ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, et l'autonomie.
Je comprends.
Mais sinon, je n'ai jamais, jamais vu une année passer. J'ai des amis qui me disent « Oh là là, je vais avoir 40 ans. Oh, mais tu verras quand tu en auras 50. » Jamais, jamais une année ne m'a peinée. Excepté le mois dernier, pour mes 70 ans, où que j'ai eu peur. J'ai dit « Alors là, je vais du mauvais côté. » Et le lendemain, c'était passé.
Écoutez Françoise, moi je comprends pourquoi David est amoureux de vous et je trouve que votre histoire est splendide et vermeilleuse et je vous souhaite d'en profiter très longtemps bien évidemment et je vous remercie pour cette leçon aussi quelque part de vie que vous nous avez apportée sur l'antenne d'RTL et puis dans un instant Serge Guérin, si vous restez à notre écoute, réagira à ce que vous avez dit, d'accord ?
Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous le même bonheur.
Mais on va prendre. On
merci
apprend
beaucoup.
Et on prend.
Merci de m'avoir reçu.
Je vous embrasse. Au revoir, Françoise.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Toujours avec vous.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Serge Guérin, qu'est-ce que vous appelez les nouveaux seniors ? Parce qu'en fait, quand on écoute Françoise parler, vous avez tout de suite réagi en me disant « Tiens, elle me fait penser à ce concept des nouveaux seniors. »
Oui, ce que j'appelle les nouveaux seniors, c'est en fait des personnes qui ne vieillissent pas comme auparavant, c'est-à-dire au sens de qui ne s'enferment pas dans une bulle quand ils prennent de l'âge. Mais finalement, ce qu'on voit bien d'ailleurs avec Françoise ou avec d'autres, c'est qu'on ne change pas de personnalité parce qu'on arrive à la retraite. Cette dame, elle était déjà comme ça à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans. Et donc, c'est simplement, la retraite, c'est souvent ça permet peut-être d'accélérer ou de mettre plus en avant certains points de son caractère, mais globalement, on ne change pas de personnalité. On construit sa personnalité sur toute la période. Et ces nouveaux seniors, c'est les gens qui ont vécu, qui ont accompagné la société de consommation, c'est les gens qui ont vécu, qui ont accompagné une société plus individuelle, plus individualiste, et donc qui arrivent au moment de la retraite sans vouloir du tout abdiquer, y compris les références à la jeunesse, y compris les références à l'activité. Donc c'est des gens qui se sentent contemporains, qui sont dans le monde d'aujourd'hui, ils ne voient aucune raison d'arrêter dans le monde d'aujourd'hui, au prétexte que sur leur carte d'identité ce serait marqué 60 ans, retraité ou que sais-je encore. Donc ils continuent, ils restent dans le monde.
En fait, Sophie Muffang, préparer sa retraite, ça dure toute la vie.
Oui, on pourrait dire que...
Non, mais c'est que la retraite en fait est à l'image de la vie qu'on a eue, mais en étant exacerbée finalement.
Oui, et puis il y a aussi l'idée, pour continuer sur ce que disait Serge, que ça dure beaucoup plus longtemps maintenant, le temps de la retraite. Et en gros, on en a pour 30 ans. Donc c'est vrai que ça se construit. Autrefois, on arrivait à la retraite, on pouvait vraiment être fatigué et avoir juste besoin de se poser et de se reposer. Maintenant, si on en a pour 30 ans, on a envie d'en faire quelque chose. Et donc ça se construit, et ça se construit avant. Et c'est vrai que les stages de préparation à la retraite, ça peut être presque l'occasion de faire un bilan de vie. Et de voir, et avec tout ce que j'ai eu ou ce que j'ai été, qu'est-ce que je vais en faire après ?
Alors, bilan de vie et bilan de couple aussi. Je ne sais pas si c'est possible. On a un message de Claude. J'ai 59 ans, je travaille la semaine à Bordeaux et je retourne le week-end dans ma maison en Dordogne. Ma femme ne travaille pas, nous cohabitons, mais je ne peux plus vraiment parler de couple. J'avoue craindre le moment de la retraite quand nous nous retrouverons 24 heures sur 24 ensemble. Vos conseils sont donc les bienvenus.
Il a raison.
Sophie. Bien sûr.
Mais oui, il a
raison de quoi ?
Il a raison de craindre.
De s'en inquiéter.
Oui,
parce qu'il s'inquiète. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne lui convient déjà pas.
Voilà, mais il est intelligent, il se prépare.
C'est une bonne idée de craindre si on ne reste pas fasciné par la crainte, mais juste avec l'idée de, bon, maintenant je fais quoi, comment je m'organise. Et c'est vrai que si la gestion du temps était très partagée, séparés, il va falloir aussi continuer d'avoir une vie un peu chacun de son côté pour pouvoir ménager les intérêts de l'un et de l'autre. Et là, ça peut être un gage de longévité pour le couple, mais il y a des conditions.
Est-ce que vous conseillez justement de parler et d'établir ces conditions dès le départ ? C'est-à-dire que, je sais pas, Claude entre et dise à son épouse, voilà, on se voit pas la semaine, j'imagine que toi t'as ta vie, moi j'ai la mienne aussi, et là...
Ça va pas se passer comme ça. On prend un papier, un crayon et on partage en deux.
Non, mais je vous parle du dialogue.
Oui, mais ça peut se faire de façon souple. Oui, on va tester, on va essayer. Et puis se rendre compte que, un week-end complet, c'était trop. Et donc, il va falloir faire un petit peu, je vais me balader pendant 2 heures ou je reviens tout à l'heure, je vais, si c'est en Dordogne, je vais tailler du bois ou je vais.
Vous faites ce que vous voulez, Claude, en fait.
Non, mais en acceptant qu'on a un jardin secret et que s'ils ont envie de continuer à vivre en couple, après, peut-être qu'il va faire aussi le point de se dire, c'est pas ça la solution pour la suite. Mais si l'envie, c'est de poursuivre, c'est sans doute se dire aussi, si on a eu tant de temps à soi, une partie, il faut le garder, quoi. Et on n'est pas forcé de tout raconter de ce qu'on a fait de ce temps à soi.
Sophie ?
D'autant qu'ils avaient chacun leur espace de vie. Donc ça aussi, ça renforce, parce qu'ils ont pris des habitudes l'un et l'autre d'avoir une certaine autonomie. Et c'est vrai que c'est sur des petits détails de la vie quotidienne que souvent les couples se heurtent.
Donc en fait, ce que vous nous conseillez, c'est de ne pas idéaliser cette fameuse période qu'est la retraite.
Et pas non plus d'en avoir trop peur, c'est les deux à la fois. Je pourrais dire que ceux qui idéalisent, il faut qu'ils redescendent un peu sur terre, et ceux qui en ont vraiment peur, qu'ils se fassent confiance aussi.
Voilà, et puis tester, et puis faire en sorte d'être heureux. Et puis si on ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait, Sophie ?
On en tire les conclusions. Où est-ce que je me sens plus moi-même ? Comment est-ce que je me sens plus heureux ? De quoi j'ai besoin ? Parce qu'en fait, nous avons chacun des besoins. Et les besoins de l'un peuvent ne pas être compatibles forcément avec les besoins de l'autre. Et c'est ça qu'il va y avoir à ajuster. C'est vraiment les besoins et les désirs de l'un et de l'autre, donc de chacun des deux « je », qui ensemble forment du nous. Mais le nous, c'est un troisième élément. Il y a je, il y a tu, il y a nous.
En fait, il faut gérer sa vie même avant, sa vie amoureuse, comme ça, en règle générale.
Bien évidemment.
Mais c'est à la retraite que ça devient critique.
Ça devient critique parce qu'on a moins de choses à côté. On peut avoir moins de choses à côté.
On n'est pas diverti.
Et tout à reconstruire. Serge ?
La retraite, c'est l'après-midi de la vie. Mais dans certains cas, ça peut être une mauvaise soirée, quoi. Donc, ce qui compte, c'est comment je prépare dans la matinée. Ça l'amuse. Comment je prépare dans la matinée la bonne qualité de mon après-midi ? Sinon, le risque, en effet, c'est... Ou alors, chacun a envie de passer la soirée là où il veut.
Donc. Il est 15h56.30. On va se retrouver dans un instant. À tout de suite.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. RTL. Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
Une note positive pour la fin avec vous, Serge Guérin.
Ce qui était passionnant dans cette émission, c'est ce qu'on voit bien, c'est qu'à tous les âges, on a droit à la surprise. À tous c'est les vrai. Âges, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, d'une bonne rencontre, d'un changement. Donc la retraite, c'est bien sûr une inquiétude, bien sûr un vrai changement, mais de ce vrai changement, il peut en être des choses extraordinaires, y compris dans la relation avec l'autre ou à la relation avec d'autres personnes.
Voilà, et en tout cas, ça se prépare comme tout le reste à chaque fois qu'on parle de la retraite. Merci beaucoup Serge Guérin d'être venu. À bientôt. La nouvelle société des seniors, c'est votre ouvrage chez Michalon qui est déjà sur notre page Facebook. Et c'était un plaisir de vous rencontrer, Sophie Mufang. Merci.
Aussi.
Déclic psy, la retraite pas si simple, comment passer le cap, je vous le conseille, c'est chez Ellipse. Et je vous rappelle, femme majuscule en kiosque dès maintenant. Je vous souhaite un doux et long week-end. J'espère que la météo pour certains vous laissera tranquille et que vous pourrez peut-être un petit peu profiter et vous reposer. On se retrouve lundi. Nous allons parler de ce que nous prenons chaque jour sur cette antenne entre 15h et 16h. C'est la communication. Une communication parfois altérée. Alors là, on ne parle plus du tout de la retraite et des seniors parce que cette communication est parfois altérée avec nos enfants au moment de l'adolescence. Vous vous souvenez de votre adolescence, Serge Guérin ?
Très bien.
Vous aviez des cheveux à l'époque.
J'avais beaucoup de cheveux à l'époque.
Ouais,
mais
d'accord.
J'étais finalement moins heureux que sans cheveux.
Voilà. Tant mieux. Comment ne pas briser le lien avec nos adolescents ? Comment les accompagner sur le chemin de l'autonomie tout en restant en relation avec eux ? C'est une relation si importante. La psychologue Catherine Joussen me nous dira que tout cela est normal, mais qu'il faut quand même y veiller. Allez, à lundi à 15h sur RTL. Tout de suite, de grands ados. Voici Philippe Bouvard et les grosses têtes qui reçoivent Antoine Duléry pour une bonne partie de rigolade. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité et à lundi.